Les cours du Collège de France, Yvon Madé, chaire informatique et sciences numériques.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours là, fidèle au poste. Donc, on va continuer sur la méthode PBDDW et reprendre un petit peu ce qu'on avait commencé la semaine dernière pour faire l'analyse de l'erreur dans ce cadre-là. Donc, je vous rappelle qu'on dispose dans ce cadre de deux choses. On dispose pour approcher la solution vraie d'un modèle paramétré. Et qui conduit donc à définir l'ensemble des solutions U de mu lorsque mu varie pour ce modèle et qui est représenté par un espace qu'on va appeler Xn, qui est l'espace vectoriel, engendré par exemple, si on a pris une méthode greedy, par U de mu 1, U de mu 2, U de mu grand N, et évidemment qu'on s'empresse d'orthonormaliser, ou alors on a directement les états 1, états 2, états N qui viennent d'une méthode d'acquisition SVD, par exemple, ou POD. Donc, pour représenter la variété des solutions du modèle. Et on dispose aussi de mesures. Alors, ces mesures, c'est considéré comme étant des formes linéaires qui sont appliquées à la solution exacte. Et donc, ce sont des sigma de U vrai qui sont en nombre infini dans un premier cas. Comme je vous avais dit, on a l'ensemble des formes linéaires à disposition pour mesurer la véritable solution, auquel cas sigma appartient à l'espace dual de l'espace hilbertien dans lequel on se place, ou alors sigma appartient à un ensemble sigma 1, sigma 2, sigma grand M. Donc l'objectif, c'est d'écrire une approximation de la solution vraie comme étant composée de deux choses, une partie qui se trouve dans S et une partie qui se trouve mise à jour, améliorée, pour tenir compte des mesures. Et donc, on va dire que U d'un certain mu qui appartient à S, plus une correction qu'on va appeler eta et qui est là pour corriger et tenir compte des mesures. Alors, dans le cadre où on a une infinité de mesures, on va demander que cette reconstruction qui est là soit cohérente avec les mesures vraies, c'est-à-dire que sigma de U de mu plus eta soit égal à sigma de U vrai. Alors, si on a toutes les mesures, évidemment, la reconstruction U de mu plus eta est égale à U vrai. Si sigma appartient à X étoile, alors U de mu plus eta est égal à U vrai. Alors, évidemment, demander que U soit un certain U de mu, ça veut dire qu'il appartient à S, et S, on n'en dispose pas. Par contre, on dispose d'une représentation finie. Donc, on va, dans un deuxième temps, pour approcher la solution U vrai, dire que on va prendre un V qui appartient à l'espace Xn, donc ça va être un Vn, plus un état. Là encore, de sorte que sigma de Vn plus eta soit égal à sigma de U vrai. Alors, si on dispose encore de tous les sigmas, une fois de plus, le eta est là pour rattraper le fait que l'espace S n'est qu'une image floue de la vérité, mais néanmoins, le eta est là pour corriger et donc on a bien que U V N plus eta N est égal à U vrai. OK ? Alors, on demande non seulement que les mesures soient respectées, mais là, on pourrait avoir, en fait, comme on le comprend bien à partir de ces deux étapes-là, on pourrait mettre n'importe quoi dans Vn, et donc, état pourrait être, on pourrait de toute façon corriger, trouver un état qui va permettre d'avoir que la somme de ces deux contributions-là soit la vérité. À partir du moment où on a pris un modèle qui représente à peu près la vérité, ce qu'on va essayer d'utiliser, c'est que Vn peut vraiment être très proche de la vraie solution. Et donc, on va essayer de définir la solution de ce problème-là avec un état n qui va être minimum. Donc, avec une infinité de mesures, le problème, c'est de trouver état étoile n qui est égal à l'argmin sur état de norme de état au carré avec un égale à vn plus état n, de sorte que, quel que soit sigma, sigma de un soit égal à sigma de U vrai. Alors dans ce cadre, ce qu'on obtient évidemment, c'est que Vn, c'est la projection de U vrai sur l'espace Xn, et que du coup, état n, c'est la projection de U vrai sur Xn orthogonal. Et donc que vérifie le couple UnVn ? Eh bien, il vérifie que UN étoile qui optimise, qui résout ce problème-là, est égal à VN étoile plus eta N étoile, au sens où, quel que soit Q appartenant à X, UN étoile fois Q est égal à VN étoile fois Q plus eta n étoile fois q en produit scalaire dans x. Et le fait que eta n soit orthogonal dans xn étoile dit que eta n étoile fois q fois p est égal à 0, quel que soit p appartenant à xn. OK, alors maintenant, on a un nombre fini de mesures. On a un nombre fini de mesures qui sont sigma appartient à sigma 1, sigma 2, sigma grand M. On va faire exactement le même problème, c'est-à-dire que on va définir état n étoile comme étant l'argmin de état au carré sur les états avec un égale vn plus état n et quel que soit sigma égale à sigma 1, sigma 2, sigma grand M, on a sigma i de un m. J'ai deux indices là maintenant. UNM, UNM, UNM égale sigma i de U vrai. Donc, dans cette écriture-là, on ne voit dans état que la partie qui est portée par les sigma i, plus exactement, si on appelle sigma U sigma I le représentant de RIS de sigma I, c'est-à-dire tel que sigma I de V de W est égal à U sigma I W en produit scalaire dans X, Ça veut dire que le eta ici qui doit être minimisé, évidemment, va se retrouver dans l'espace vectoriel engendré par les U sigma i. Et donc je définis UM comme étant l'espace vectoriel engendré par les U sigma i, i allant de 1 jusqu'à grand M. Et donc le système qui va apparaître va être que, quel que soit Q appartenant à X, eh bien j'ai UNM étoile Q est égal à VNM étoile Q plus eta NM étoile Q, donc montrant qu'on a l'égalité de UNM étoile égale VNM étoile plus eta NM étoile, et quel que soit P appartenant à X N, on a eta NM étoile fois P est égal à 0. Ok, alors le Q qui est là, on voit que puisque le eta NM va appartenir à UM, on peut le restreindre un petit peu pour qu'il soit dans un espace plus petit. Alors ce qu'on voit ici aussi, c'est que l'erreur entre U vrai et UN étoile, eh bien, puisqu'on a la projection qui est là, qui nous apparaît, c'est qu'il y a une partie qui est liée à l'approximation dans la variété et l'autre partie qui compense et grâce aux mesures. Alors maintenant, on va estimer l'erreur entre U vrai et UNM qui est reconstruit à partir de ces deux choses-là. Alors, de cette écriture ici et de cette écriture-là, si on teste sur des Q qui appartiennent à UM intersecté avec XN orthogonal, donc l'espace engendré par les formes et qui est dans l'orthogonale de XN. Alors, ce qu'on obtient, c'est que UNM et UNM étoile et ça bien évidemment quand on prend les quand alors ça c'était sur toutes les mesures et donc ah oui il faut que j'écrive d'abord ceci c'est que donc UNM étoile fois Q est égal à VNM étoile fois Q plus eta NM étoile fois Q, mais ceci est égal à U vrai fois Q si Q appartient à UM. Donc cette écriture qui est ici, d'accord, doit être comparée par rapport à l'écriture qui disait que VNQ plus eta NQ est égal à U vrai fois Q, quel que soit Q. Donc si on restreint les Q qui sont ici à UM, ça reste vrai bien évidemment, et si on prend un Q dans XN orthogonal, alors on va enlever cette partie-là, parce que cette partie-là est appliquée à des éléments Vn et Vnm qui sont dans Xn. Et donc, ceci, ça fait 0, puisque c'est la même U vraie. Et donc, on obtient que eta N étoile moins eta Nm étoile fois Q est égal à 0, quel que soit Q appartenant à Um intersecté avec Xn orthogonal. Donc, voilà ce que je voulais faire ici pour avoir la première relation. Alors, pour estimer l'erreur entre le U reconstruit, le UNM ici, et le UN qui est là, qui est égal au U vrai, je vais estimer d'abord le eta N, M moins le zeta N, et donc je vais regarder eta N moins eta N, M, et je vais oublier les étoiles, parce que ça fait un peu beaucoup, au carré, C'est donc eta n moins eta nm, eta n moins eta nm, en produit scalaire dans x, et donc c'est égal à eta n moins eta nm fois eta n moins un élément que je vais appeler q, plus eta n moins eta nm q moins eta nm. OK ? Alors, cette chose-là vaut 0 parce que q appartient à cette chose-là est égale à 0 parce que q est dans um inter xn orthogonal, comme on l'a dit ici, et que donc il me reste que ceci est inférieur à norme de eta n moins eta nm multiplié par la norme de eta n moins q, et ceci donc quel que soit q appartenant à um inter xn orthogonal. J'en déduis donc que, je vais l'écrire ici, eta n moins eta nm est majoré par l'infimum pour q appartenant à um inter xn orthogonal de eta n moins q. Donc premier résultat qui donne une partie de l'erreur entre unm qui m'intéresse et un qui est égal au vrai. Alors, il faut que je garde ces deux choses-là. Donc, je vais effacer ici. Alors, maintenant, je vais regarder l'erreur sur Zn moins Znm. Alors, je vais continuer quand même un peu le eta n moins eta nm au carré, où on a vu que c'était inférieur ou égal au eta n moins q infimum pour les q appartenant, on a dit, à um inter xn orthogonal. Mais on a vu aussi que eta n, c'est la projection sur xn orthogonal de un. D'accord ? Donc, ceci, c'est égal à l'infimum de la projection de un, la projection de u vrai, sur xn orthogonal, donc moins q, où le q appartient à um inter xn orthogonal et que je mets au carré. Alors maintenant, je vais remarquer une chose toute bête, c'est que l'infimum sur z appartenant à xn de la projection de u vrai sur xn moins z est égal à 0. Tout simplement parce que la projection de u vrai sur xn est un élément de xn et donc cet infimum est évidemment égal à 0. Donc je peux rajouter cette chose-là ici en mettant un carré. Et donc ceci, si je mets les deux infs en même temps, ça me donne un inf sur q et un inf sur z, l'un appartenant à xn, l'autre appartenant à um inter xn orthogonal, de la projection sur xn orthogonal de u vrai moins q au carré plus la projection sur xn orthogonal de u vrai moins z au carré. Alors maintenant, ces deux quantités-là sont orthogonales, puisqu'il y en a une qui est dans xn et l'autre qui est dans xn orthogonal. Et donc, les carrés ici nous donnent les deux inf de la norme au carré de la projection sur xn plus la projection sur xn orthogonal de u vrai moins z moins q. Mais la projection sur xn plus la projection sur xn orthogonal, c'est l'identité. Donc ceci, c'est l'inf sur q et sur z de u vrai moins z moins q au carré. Et donc, l'erreur sur l'incrément est majorée par la meilleure approximation qu'on puisse faire de u vrai en prenant un élément z dans l'espace xn, z dans l'espace xn, et en lui rajoutant un incrément d'approximation qui n'a plus besoin d'être dans xn puisqu'on a déjà tout couvert avec xn, mais qui est dans l'espace vectoriel engendré par le ris des mesures. Alors, on continue donc avec l'erreur sur le z et sur le vn. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a cette égalité qui est là. Là encore, pour les mesures. Et donc, on a vn moins vnm fois n'importe qui dans l'espace des mesures est égal à moins eta n moins eta nm fois v. Donc ceci est vrai, quel que soit v, sur l'ensemble des mesures, puisque ça, c'est la soustraction de ces deux égalités qui sont là, prises sur les mesures qui sont les mesures vraies. Alors, on a dit que la semaine dernière qu'il nous fallait choisir les mesures de façon cohérente avec l'espace Zn, et on reverra ça avec l'approximation optimale, la notion d'approximation optimale, c'est-à-dire que on demande qu'il existe un bêta nm qui est égal à l'inf sur les v appartenant à xn du sup sur les z les w appartenant à um du produit scalaire de v fois w divisé par la norme de v, la norme de w. Et dans ce cadre-là, cette chose-là qui appartient à xn, on va choisir un v qui est ici, dans l'espace des mesures, qui va nous permettre d'utiliser cette inégalité inf sup, et donc de dire que bêta nm de la norme de vn moins vnm est majoré par le vn moins vnm fois un w étoile qui vient de la condition inf sup ici, divisé par w étoile, et qui est donc, d'après cette égalité-ci, majoré par eta n moins eta nm multiplié par w et divisé par w. Donc l'erreur sur la partie dans Zn est majorée par l'erreur sur les états modulo cette constante bêta nm. Et donc on en déduit finalement que U vrai moins UNM optimisé, qui est donc égal à VN plus eta N pour U vrai moins VNM plus eta NM pour ce qui est de la partie UNM, eh bien est majoré par 1 plus 1 sur bêta NM, l'infimum de U vrai approché par un Z plus Q avec un Z qui appartient à la représentation espace réduit du modèle et du Q qui est représenté par les RIS des mesures. Voilà, donc je voulais vous faire cette démonstration-là pour bien montrer qu'il y avait trois choses qui intervenaient. La première, c'est la précision du modèle par rapport à la réalité, qui peut être améliorée par des Q qui sont ici et qui sont dans l'espace de RIS des mesures. Et on avait vu qu'on peut changer la façon de prendre le produit scalaire pour que les RIS soient des fonctions qui ne soient pas subies, mais qu'on puisse les choisir de façon intelligente. Et ensuite, le bêta NM ici, qui vient du fait qu'on doit avoir une certaine compatibilité, puisque le problème PBDW est un problème mis sous forme mixte, qui naturellement a les bonnes propriétés de stabilité. Si on a cette condition F sub qui est là, une condition F sub qui, si bêta devient petit, eh ben, va nous donner un grand facteur et qui donc va polluer cette meilleure approximation possible par Z et Q. Alors, on va comprendre ça un petit peu mieux tout à l'heure, mais je voulais, avant ça, donner deux remarques. La première remarque, c'est si on a du temps, et qu'on a le budget correspondant, on peut faire une partie offline qui, comme toute partie offline, va être coûteuse et qui va permettre d'améliorer l'espace XN. Si jamais notre modèle est un peu trop pourri, qu'on a laissé tomber trop de choses dans des interactions, on peut améliorer l'espace XN en faisant un premier PBDW, étape 1, dans lequel on va avoir plein de mesures. Ça va nous coûter cher, mais on va avoir plein de mesures qui vont nous permettre d'avoir une meilleure approximation de la réalité. D'accord ? Donc on va construire, à la place de cet espace XN et à la sortie de ce PBDW 1, qui va être obtenu avec beaucoup de mesures et donc un M1, on va avoir un ensemble qui va être un ensemble de UNM1, étoile, la solution optimale, éventuellement pour plusieurs situations. Et donc au lieu de considérer l'espace des XN, on va pouvoir l'améliorer avec les composantes état NM qui vont être utilisés dans cette première phase pour améliorer la solution. Donc on va remplacer l'espace XN par un espace XNM qu'on va condenser. On va le condenser en faisant une SVD dessus, et ce qui fait que ça va donner un XN plus un petit M. Qui va être une adjonction de quelques modes pour bien représenter l'ensemble des solutions U, N, M, 1. Et donc, je vais remettre le 1 ici et je vais mettre un petit M1 qui est là. Donc ça, c'est dans la partie offline, on a le temps et donc on fait plein de reconstructions et on a le budget qu'il faut pour reprendre plein de mesures et essayer de mieux comprendre en quoi, grosso modo, notre modèle n'est pas bon pour bien représenter l'ensemble des solutions. Et alors, deux, on va travailler maintenant online. Okay, comme d'habitude, offline, c'est coûteux. Et on a coûteux à la fois en finance, parce qu'il faut louer éventuellement des capteurs qu'on ne va pas pouvoir louer très longtemps, mais ça nous permet d'améliorer la connaissance du X qui est là. Et donc, online, on va revenir à un PBDW2, un PBDW2 qui va être basé sur un M2 et cet espace qui est là. Donc, cette fois-ci, on va reconstruire un U N M1 M2 qui va être construit avec un V qui va appartenir à l'espace X grand N plus M1 plus un état qui va appartenir à un espace U M2 de mesure. Et cet espace de mesure, il doit être optimisé pour avoir une condition bêta nm qui va être, là encore, satisfaisante. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est que les appareils de mesure qui donnent des mesures exactes, ça n'existe pas. Et donc, il y a forcément une erreur au niveau de l'évaluation des mesures vraies, d'accord ? Et donc, au lieu d'avoir un sigma de U vrai, eh ben on a une petite erreur dessus avec un epsilon. Et le epsilon, on va considérer que c'est une variable gaussienne centrée en zéro de variance sigma. Et donc, c'est un petit bruit aléatoire qui dépend de l'opérateur, qui dépend de l'appareil de mesure, qui dépend des conditions dans lesquelles on va faire la mesure. Alors dans ce cas-là, il faut tenir compte du fait que les mesures ne sont pas exactes, donc on ne va pas demander que les sigma de U vrai soient égales à sigma de U NM. D'accord ? Puisque on ne connaît pas la vraie mesure, d'accord ? Donc on ne va pas demander cette chose-là. À la place de ça, on a donc des données qui sont des mesures bruitées de la vraie solution. Et donc on va demander que ces mesures YI moins le sigma I appliqué à UNM, on va sommer sur les I et on va élever ça au carré. On ne va pas demander que ça soit égal à zéro, mais on va demander que ça rentre dans le processus de minimisation, où on doit aussi, je vous rappelle, minimiser le état. Et donc, état au carré va être minimisé. Et donc, on va rajouter un plus qui est là, et on va mettre un xi pour faire la part entre la minimisation du état et l'acceptation des mesures qui sont ici. Alors, si on n'a pas de bruit, on va vouloir que les mesures soient exactement vérifiées, puisque c'est la seule chose qui est vraie. Et donc, on va faire tendre xi vers 0. Et si les mesures ne sont pas très correctes, c'est-à-dire que epsilon n'est pas négligeable, dans ce cas-là, on va accepter de s'écarter un petit peu des mesures et on va néanmoins demander la minimisation du état qui est là. Donc on va minimiser cette fonction coût qui dépend donc des états, qui dépend des mesures, sur les états qui sont dans l'espace vectoriel engendré par les mesures et qui complémentent le UNM qui est un Z et un état qui permet d'approcher les mesures qui sont ici. Alors donc dans ce cas-là, l'erreur tient compte l'erreur par rapport au UNM sans bruit. Il va tenir compte de xi et de état. Alors, je ne vais pas faire l'analyse numérique parce qu'on a d'autres choses à voir, mais je vais vous donner une flavor. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui va dépendre de xi et de sigma, la taille du bruit qui est ici. Donc l'erreur au carré va être une fonction de ça, avec des normes matricielles, puisque ce problème-là va s'écrire de façon matricielle, qui dépend de xi ici. Et donc, selon la valeur du bruit sigma, eh bien, on est capable d'optimiser le xi pour être capable d'avoir le meilleur équilibre entre les deux parties de l'erreur qui sont là et qui tient compte à la fois de l'erreur des mesures et de l'approximation du modèle. OK. Alors, on va mettre ça dans un cadre maintenant de optimal recovery. Reconstruction optimale à partir de données. Donc, on efface tout. On refera le lien juste après. On efface tout, on ne garde que le fait qu'on connaît de la vraie solution que des sigma i, des mesures de u vrai. Alors, des sigma i qui donnent des u de sigma i et qui donnent donc un espace qui est lié aux mesures um. Alors, à partir de ces mesures qui sont là, il faut qu'on reconstruise le U vrai. Alors, le U vrai, on n'en connaît que cette partie qui est là et qui va donc être représentée comme un élément W qui appartient à UM et qui est défini par les mesures, et qui est donc défini pour que sigma i de W soit égal au sigma i de U vrai. Alors, cette égalité-là montre que W, qui est ici, est la projection sur UM orthogonale de U vrai. La projection sur UM de U vrai. Donc, U vrai est égal à W, la projection sur UM étoile, plus évidemment la projection sur UM orthogonale de W. Et donc la question est de savoir comment on reconstruit cette partie de U vrai. Comment on reconstruit cette partie qui manque aux données? Alors, si on n'a rien que les mesures, ben, on ne peut rien faire d'autre que ce qui est là. Si on sait que on n'a rien d'autre que les mesures, on ne sait pas trop quoi faire pour améliorer la connaissance qu'on a. Et donc, on va prendre 0, par exemple. Et c'est pas très malin. Alors maintenant, on peut avoir des connaissances sur U vrai. Par exemple, que U vrai appartient à un ensemble qu'on va appeler M. Et que donc, on va dessiner, par exemple, cet ensemble-là. C'est une chose comme ça. On va mettre l'ensemble des mesures qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on connaît avec les mesures? Eh bien, on connaît des projections, des éléments qui sont sur cet ensemble M que j'ai assuré. On connaît ces projections sur l'espace UM par les mesures. Et donc, vous voyez que tous les éléments qui sont ici, ils ont la même mesure. Ils sont dans l'ensemble, mais ils ont exactement la même mesure. Et que donc, la différence entre ces éléments-là, eh bien, c'est justement quelque chose qui est invisible par les mesures et qu'on ne va pas être capable de reconstruire. Et donc, quand on a les mesures plus un ensemble M qui est ici, eh bien, la solution la moins pire, ça va être de prendre ce qu'on appelle le centre de Tchébyshev de cet ensemble qui est là, et qui va être le milieu qui est ici et qui est bien un élément de UM. Dans ce cadre-là, le centre de Tchébyshev, ça va être un élément qui n'est pas dans UM. Et donc, du coup, si on veut vraiment que ça soit dans UM, on va prendre celui-là ou celui-là, qui est celui qui est le moins pire par rapport à cette égalité qui est là. Alors, cette reconstruction qui est ici permet bien de comprendre le fait que, au travers des mesures, eh bien, on est invisible sur toute la partie qui est orthogonale à l'espace UM et que, donc, pour reconstruire cette partie inconnue, eh bien, il va falloir justement supposer un certain nombre de choses. Alors, la méthode PBDW, donc, elle approche un petit peu dans ce cadre-là, puisqu'elle dit que ma solution vraie, elle appartient à un ensemble M qui est inconnu, mais que je peux approcher par un espace Xn, d'accord, qui va être de dimension finie, et dans lequel je sais que mon M pour manifold, par rapport à ensemble de solutions qui est aussi une variété, cet ensemble M-là est bien approché par Xn. D'accord ? Et donc, si Xn, justement, n'a pas de partie dans l'orthogonale de UM, et c'est justement ce que demande cette condition 1 sub qui est ici, si l'espace Xn n'a pas de composantes qui sont orthogonales, eh bien, on va réussir à obtenir une solution qui va s'écrire comme la fonction W qui tient compte des mesures, plus un complément donné par le Xn et qui permet de reconstruire cette chose-là dans l'espace UM orthogonal inter-Z. Alors, vous voyez que l'approche PBDW et l'approche Optimal Recovery sont un petit peu duales l'une de l'autre, au sens où le point de départ dans le PBDW, c'est qu'on a le modèle et qu'on se débrouille pour trouver des mesures afin que la condition F sub là soit satisfaite. Dans l'Optimal Recovery, c'est un petit peu l'aspect dual, c'est-à-dire on a les mesures qui sont fixées au début et on essaie de définir l'espace Xn de sorte que la même condition F sub soit apportée. Alors, elle se retrouve, bien évidemment, une fois qu'on a formalisé le problème sous cette forme qui est ici. Elle se retrouve tout à fait. Mais elle permet de voir que, selon qu'on part, on prend le point de départ d'approcher la solution par un modèle paramétré ou qu'on n'a que les données et qu'on essaie de rajouter des choses pour retrouver cette partie qui est dans l'espace orthogonal, on voit qu'on a donc bien deux approches complémentaires. Alors, ce qui est important, il me semble, c'est que on a ainsi la possibilité, avec modulo le bêta NM, d'approcher la véritable solution, non seulement par la partie qui est dans le modèle, mais une partie Q qui est pilotée par les mesures, ou qui est pilotée, si on modifie le produit scalaire, par un ensemble de fonctions radiales. On comprend bien aussi là que grand M doit être supérieur à grand N, parce que si grand M était plus petit, eh bien, il y a forcément un élément dans Xn qui va être orthogonal à UM, et donc ça donnerait un bêta NM qui est égal à 0. Donc on comprend bien que les mesures doivent être en nombre supérieur à l'espace Xn, et donc on comprend bien aussi que dans cette façon du PBDW de dessiner les mesures, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par prendre des mesures qui sont adaptées à cette condition F sup. Les premières mesures qu'on va prendre vont permettre d'être le mieux placé pour déterminer la partie paramétrée qui s'appelle VNM dans la partie représentant le modèle. Et ensuite, on va placer les capteurs, les mesures, dans un ensemble qui n'aura plus besoin de vérifier cette condition-là, puisque plus on ajoute UM, plus on va améliorer le bêta NM. Donc une fois que le bêta NM est satisfait, on n'a plus besoin de satisfaire cette partie-là. Et donc là, on va essayer de définir les autres mesures pour améliorer le complément qu'il faut au modèle pour représenter la réalité. Et donc là, bah, on prend a priori plutôt des mesures qui correspondent à des fonctions qui sont qui vont être radiales et qui vont être mises de façon à optimiser la position des capteurs pour rajouter un maximum d'informations. Très bien. Donc, ça termine cette partie de reconstruction de la solution à partir de mesures et à partir du modèle, en tenant compte éventuellement d'un bruit. Alors, on continuera la semaine prochaine sur ces notions de reconstruction vues avec sous l'aspect encodeur-décodeur. Mais avant de passer à des approximations qui éventuellement pourraient être non linéaires, je voudrais ajouter prise en compte de contraintes dans le cadre de l'approximation en base réduite. Alors, on a vu qu'on avait un ensemble de solutions, U de mu, mu appartenant à un ensemble D inclus a priori dans RP, où P est le nombre de paramètres. On a défini, dans le cas où l'épaisseur de Kolmogorov est petite, on a défini un espace Xn qui est un ensemble formé de zeta 1, zeta 2, zeta grand N. OK. Et on va approcher la solution U de mu pour un nouveau paramètre comme une somme de alpha I, zeta I. Alors, il y a souvent une contrainte qui peut apparaître, qui est que, par exemple, on veut que les fonctions qui sont ici soient positives. OK, c'est très important qu'elles soient positives ou qu'elles soient plus petites qu'une certaine borne. Donc, plus petite qu'une certaine borne, ça veut dire que L moins U de mu est positive. Donc, ça se traduit à peu près de la même façon que la positivité des fonctions, par exemple pour un problème de contact où il y a des problèmes physiques pour lesquels la positivité est fondamentale. Alors quand la positivité est fondamentale, il va falloir respecter dans l'approximation qui est là qu'on ait la positivité, parce que ces fonctions approchées vont rentrer éventuellement dans la physique du modèle et que si la solution n'est plus positive, on va avoir des problèmes, on va avoir des quantités qui n'ont pas de sens. Alors, une bonne façon pour assurer la positivité, c'est de faire un pas en arrière par rapport aux zeta i, c'est-à-dire qu'on exprime ça sous la forme de bêta i u de mu i. Et puisque les u de mu i sont des solutions obtenues pour un certain paramètre, eh bien, on sait qu'elles sont positives. D'accord ? Donc, pour dire que U de mu va être approché par un UN de mu qui s'écrit comme une somme bêta I de mu U de mu I, et que les U sont positifs, eh bien, pour assurer la positivité de UN, il suffit de demander que tous les bêta i soient positifs. Donc au lieu d'avoir une combinaison linéaire quelconque de la solution, on va demander à ce qu'on ait une combinaison avec des contributions positives. Donc ça, ça veut dire que on travaille dans un cône. Par exemple, si j'ai U de mu 1 qui est là et U de mu 2 qui est là, au lieu de travailler dans tout l'espace vectoriel engendré par ces deux fonctions, eh bien, je vais travailler dans simplement cette partie qui est là, qui est le cône à composante positive généré par ces deux vecteurs qui sont là. OK ? Alors, on est dans un cadre a priori où l'épaisseur de Kolmogorov est bonne, on est dans un cadre où a priori on va être capable d'obtenir des solutions, des valeurs du paramètre mu1, mu2, mu grand n qui sont correctes pour avoir une bonne approximation. Donc on sait que cette approximation-là est bonne, mais rien ne dit que cette approximation-là est bonne. D'accord ? Alors, on pourrait dire qu'on va continuer avec ça et prendre, par exemple, l'approximation de max de ceci et de 0. Ce qui fait qu'à peu près partout, la solution sera bien une combinaison linéaire des U de mu, des états I, on s'en fout du signe. Et puis là où l'approximation est négative, on remplace ça par 0, comme ça. Mais bon, ça c'est pas terrible parce que du coup il va falloir chercher là où la fonction s'annule, ce qui est pas forcément très très simple, et ça va dépendre à chaque fois de mu. Donc rappelez-vous que si on a les U de mu1, U de mu2, U de mu n, on les connaît pas, hein. A priori, il faut les calculer avec une méthode d'éléments finis. Donc la complexité des U de mu i ou des zeta i, cette complexité-là, elle est elle fait intervenir le n qui est la dimension élément fini sous-jacente qui a permis d'approcher les solutions, et que donc rechercher online l'endroit où cette combinaison des états i qui sont des fonctions éléments finis va être négative pour la remplacer par zéro, c'est un peu compliqué. Néanmoins, on sait qu'une telle somme va être bonne et que donc elle est presque partout positive. Par contre, si on impose que les contraintes bêta ici soient les composantes bêta soient positives, alors là c'est une forte contrainte et rien ne dit qu'on va être capable de bien approcher la solution. Alors en fait, parce qu'on peut très bien avoir une combinaison des U de mu avec des coefficients qui vont peut-être parfois devenir un petit peu négatifs, mais qui va rester strictement positive. Donc ce qu'on a envie, c'est de relaxer un petit peu la contrainte sur les bêta ici, accepter qu'ils deviennent un petit peu négatifs en ligne, de sorte que l'approximation qui est ici va rester positive. Alors ça reste un même problème aussi difficile que celui-là. Et donc on a eu l'idée d'essayer d'élargir un petit peu le cône qui est là en modifiant offline les U de mu1, U de mu2, U de mun. C'est-à-dire que on va élargir le cône de fonctions positives en prenant U de mu1 et en lui retranchant un petit chouille de U de mu2. Donc je répète, je suis offline, hein. Et donc j'enlève à U de mu1 un petit bout de U de mu2. D'accord ? Donc si lambda égale 0, ça reste positif. Si lambda est tout positif mais tout petit, c'est encore positif. D'accord ? Et donc on va prendre un lambda 1 étoile comme étant l'arg max de U de mu qui reste positif. On prend le plus grand lambda qui garde la positivité de U de mu 1 moins lambda U de mu 2. D'accord ? Et on fait la même chose sur lambda 2 étoile, où on retire à U de mu 2 un lambda U de mu 1, de sorte qu'il reste positif. D'accord ? Et donc, j'ai un U bar de mu 1 qui va être égal à U de mu 1 moins lambda 1 étoile U de mu 2, et j'ai un U bar de mu 2 qui est égal à U de mu 2 moins lambda bar 2 étoile U de mu 1. D'accord ? Alors, ça veut dire que certainement cette fonction-là va s'annuler en quelques points. D'accord ? On va prendre le plus grand lambda 1 étoile pour que cette fonction-là s'annule en éventuellement quelques points, et là aussi. Alors, ces deux fonctions-là, par définition, restent positives ou nulles. Et donc, si on fait une combinaison de U bar de mu 1 et de U bar de mu 2, eh bien, on va rester positive avec des coefficients positifs. Donc, U n de mu va être égal à une somme de bêta bar de mu U bar de mu i. Avec les bêta bars i qui sont positifs. Mais vous voyez, j'ai élargi le cône maintenant, ce qui fait que des fonctions qui sont ici sont à composante positive dans le cône élargi, mais à composante négative dans le cône initial. D'accord ? Donc, en élargissant ainsi, on améliore l'approximation. Alors, c'est facile de le faire avec 2. Avec plus, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué, parce que est-ce qu'il faut retirer du E du mu 2 ou du U de mu 3 ou, voilà. Donc, là, il y a plusieurs méthodes. Alors, on avait proposé une première méthode et Virginie et je ne sais plus qui avait travaillé aussi pour travailler dans cet élargissement du cône afin d'augmenter la propriété d'approximation. Alors là, il n'y a à ma connaissance aucun théorème qui existe pour avoir la bonne solution, mais en tout cas, on élargit le cône, et vous voyez bien que, bien qu'il y ait des composantes positives en fonction de U bar, eh ben, ça ne se traduit pas en des composantes positives en U de mu 1 et U de mu 2, d'accord? Parce que ce machin-là va s'écrire, j'ai plus d'effaceur, si. Ce machin-là va donc s'écrire donc je vais avoir bêta 1 bar U1 bar plus bêta 2 bar U2 bar, ça fait bêta 1 bar facteur de U de mu 1 moins lambda 1 U de mu 2 plus bêta 2 bar U de mu 2 moins lambda 2 U de mu 1, et donc ça fait bêta bar 1 plus bêta bar 2 moins bêta bar 2 multiplié par lambda 2 U de mu 1 plus bêta bar 2 moins bêta bar 1 lambda 1 multiplié par U de mu 2. Et donc, avec bêta 1 et bêta 2 positifs, il n'y a aucune raison que cette quantité-là, puisque lambda 2 est positif, que ces deux quantités-là soient positives. On a écarté le cône pour élargir l'espace d'approximation. OK ? Donc, ça, c'est une première contrainte assez facile à réaliser, peut-être pas de façon optimale, et en tout cas, il y a à optimiser, dans le cas de dimensions supérieures, comment on fait pour définir le meilleur U bar de mu 1, U bar 1, qui, à partir de mu 1, enlève des lambda bar 1 i, U de mu i allant de 2 jusqu'à grand N, avec des conditions lambda ici qui sont positives et qui permettent d'élargir au plus l'ensemble des fonctions U de mu 2. D'accord ? Alors, ce qu'on a proposé dans un premier cadre, c'est d'optimiser selon ce critère-là, mais de ne prendre que la moitié de lambda 1 pour laisser la possibilité à U2, mu2 et U2, U2, U3 et U2, mu4, qui vont devenir derrière, de continuer à aplatir la solution. Donc le but, c'est d'aplatir la solution tout en la laissant positive. Et donc en itérant là-dessus, on arrivait à quelque chose, mais donc c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait améliorer l'approximation. Alors ça, c'est une première chose, conserver la positivité, et ce qui dit conserver la positivité, comme je disais, permet aussi de conserver des bornes où les U doivent être plus petits qu'une certaine constante L. Ça, c'était la première condition un peu difficile à vérifier, à maintenir dans le cadre des bases réduites, de façon exacte en tout cas. Alors l'autre cadre, c'est le cadre des approximations symplectiques. Ok, donc là on est dans un autre cadre où la modélisation est donnée par une équation dans laquelle les états x de t et de mu sont des couples classiquement écrits q de t et de mu, p de t et de mu, et qui vont, parce qu'on va les discrétiser, appartenir à R de n. Et donc ils sont régis par une équation hamiltonienne qui dit que x point de t et de mu est égal à J de n gradient par rapport à x d'un hamiltonien appliqué à x de t et de mu qui dépend de mu, et avec une condition initiale x de 0 et de mu est égal à un certain x de 0 et de mu. Alors j de n ici, ça va être un élément qui va être important et qui est une matrice antisymétrique où j'ai la matrice identité de taille n ici et moins identité de taille n qui est là, et pour lesquelles on vérifie facilement que le carré de J de n, c'est moins l'identité de taille 2 n, et que la transposée J de n transposée, c'est moins J de n. Alors, ça donne cette donnée de J de n donne un produit, une forme symplectique canonique. Qui est l'application qui a deux éléments V associés W de UV est égal à U transposé J2N moins 1 V, ou encore moins U transposé J2N V. Alors, quelle est la particularité de ces systèmes qui sont là, qui peuvent s'écrire aussi, bien évidemment, Q point est égal à la dérivée par rapport à P de l'hamiltonien de Q, et P point est égal à moins la dérivée par rapport à Q de l'hamiltonien. Alors, ce que vérifie un tel système, c'est que l'hamiltonien, le long d'une trajectoire, x de t et de mu reste constant. Donc c'est une particularité de l'hamiltonien. Et donc pourquoi ? Parce que on peut vérifier que si on dérive par rapport au temps cet hamiltonien sur une trajectoire. Alors j'ai donc la dérivée par rapport au temps se fait par rapport à la trajectoire qui est là. Et donc c'est égal à au gradient par rapport à x de l'hamiltonien en x de t et de mu multiplié par x point de t et de mu avec un transposé qui est là. Et la dynamique du x point, c'est justement celle-ci, c'est-à-dire gradient x de h transposé multiplié par j2n fois le gradient x du même hamiltonien. Et donc, puisque j est antisymétrique, ça donne 0. Et c'est donc une propriété importante de ces systèmes-là qu'on veut garder lors de la discrétisation. Alors, quand on fait une discrétisation en base réduite, l'ensemble des solutions, alors qu'on va appeler x de mu et de t, cet ensemble-là de solutions, on va vouloir le réduire avec une méthode classique en prenant soit une méthode greedy classique, soit une méthode SVD, une méthode greedy classique basée sur un estimateur d'erreur. Et donc, on va arriver à un espace Xn qui est un espace zeta1, zeta n de fonctions qui vont être orthogonales puisque c'est la façon classique dont on conduit la SVD dans ce cadre-là. Donc le problème, c'est que l'approximation va être bonne, mais le système qui en résulte n'est pas un système hamiltonien. D'accord ? Et que donc, pour ces systèmes hamiltoniens, où l'idée c'est de faire des propagations en temps très long, on sait qu'il faut utiliser des schémas qui conservent ces propriétés de préserver l'hamiltonien, et c'est donc toute la voie des schémas d'approximation d'équations différentielles qui sont des schémas symplectiques pour essayer d'avoir justement la conservation de l'hamiltonien. Alors, dans la discrétisation spatiale, on veut conserver la forme de l'équation qui est ici, et ça n'est pas le cas si on prend une approximation classique au travers de la SVD. Alors pour ça, on va donc proposer un autre cadre qui est le cadre des approximations symplectiques et des sous-espaces symplectiques. Alors on dit qu'une matrice grand A qui appartient à R2n 3 2 petit n est symplectique si A transposé J2n A est égal à J2n. Alors vous vous souvenez la base des vecteurs qui est ici, si on les mettait sous la forme zeta1, zeta2, zeta n. Ce qu'on avait, c'était que V orthogonal V transpose V était égal à l'identité. Ça, c'était l'idée de la décomposition de l'approximation orthogonale classique. Alors ici, ce qu'on va prendre, c'est des matrices toujours avec 2n degrés de liberté dans la direction des verticales, et on va prendre 2n éléments qui vont être ici pour que l'approximation vérifie au sens de la géométrie symplectique cette condition ici d'orthogonalité. Alors, dans ce cadre-là, quand on a une matrice symplectique, alors on peut associer A à son inverse symplectique. Et son inverse symplectique, c'est A plus égale à J2N transposé A transposé J2N. Et on peut vérifier en effet, d'après la propriété de symplecticité qui est ici, que A plus A est égal à l'identité dans l'espace de petit n. Et qu'on a donc du coup un projecteur symplectique associé qui est A, l'inverse de A. Alors, au lieu d'écrire que on avait ici dans ce cadre que UN était égal à V multiplié par un Z qui était des coefficients, au lieu de prendre ça, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que X de T et de mu va être approché par un A, Z de T et de mu, où Z va être de petite dimension de Zn. Et donc, dans l'Hamiltonien qui est ici, au lieu de mettre X, eh bien, on va mettre A de Z et de mu. Et donc, l'équation qu'on va considérer, ça va être encore radiant x j de n, qui va donner la dynamique du z point de t et de mu, qui va donc être égal à ça, mais ça ne peut pas être égal partout parce que ça n'a pas la bonne dimension. Et donc, on va le tester, là encore, sur des fonctions qui vont être du même type que celui-là, et donc on va mettre l'inverse symplectique de A. Donc le système posé est celui-là, et donc on va regarder un petit peu ce que c'est que ce système qui est là en posant l'Hamiltonien réduit de Z et de mu qui est égal à l'Hamiltonien initial appliqué à AZ et mu. OK. Alors, si on calcule le gradient par rapport à Z de cet Hamiltonien réduit par rapport à mu, alors, il s'écrit le gradient par rapport à X de l'Hamiltonien initial appliqué en AZ et en mu, avec devant le A transposé qui vient de la dérivation d'un, par rapport à Z d'un élément dans lequel, dans H, ça, le X est égal à AZ. Alors, quand on utilise les relations sur A transposé J2N qui sont ici, on s'aperçoit que Z point de T et de mu est égal à J2N de petit n de gradient Z l'hamiltonien réduit exprimé en fonction de Z et de mu. D'accord ? Donc le fait d'avoir pris une approximation réduite dans lequel, au lieu de prendre des matrices qui sont orthogonales, on prend des matrices qui sont définies par une matrice symplectique, ça donne une forme hamiltonienne au système réduit. Donc le système réduit est hamiltonien. D'accord ? Et donc on aura toutes les bonnes propriétés de conservation, non pas de l'hamiltonien initial, mais de l'hamiltonien réduit. Donc ceci a été développé dans la thèse d'un étudiant de Bernard Hasdonck. Dont j'ai lu la thèse pour vous parler de cette partie de la conservation par base réduite. Et donc l'idée, ça va être de construire cette matrice de la même façon qu'on a construit par SVD ou par Greedy la base réduite classique, mais de sorte que la matrice A devienne une matrice symplectique. Donc, construction de la base réduite symplectique. Alors on va considérer tout d'abord qu'on a deux éléments U de mu 1 X de mu 1 et X de mu 2 qui sont deux éléments. Je vais peut-être pas les appeler X et pas... je vais les appeler x de mu1 et de t1, x de mu2 et de t2. Et donc je vais les appeler e1 et f1, ces deux éléments qui sont là, obtenus par le choix de deux paramètres éventuellement différents, à deux temps différents. Parce que on a dans ce cadre-là, on a grosso modo deux paramètres. On a le paramètre qui intervient dans l'hamiltonien. Mais comme c'est un processus qui dépend du temps, ces fonctions-là qui sont dans R2N, on va éventuellement les avoir tout au long d'une trajectoire. Dans la partie offline, on va faire la simulation et on va prendre quelques représentants temporels intéressants pour bien représenter la solution. Alors, ce qu'on va vouloir, c'est que Vous vous souvenez la forme W de UV symplectique qu'on avait introduit tout à l'heure, qui était U transposé JV. Alors, on va transformer ces deux choses qui sont là en supposant que W de E1 et de F1 soient différentes zéro. On va les transformer pour que ça soit les deux premières composantes d'une matrice symplectique. Et pour que ce soit les deux premières composantes d'une matrice symplectique, il faut que l'on ait W de EI de E1 F1 qui soit égal à 1, W de, évidemment, E1, E1 est égal à 0, et W de F1, F1 qui est égal à 0. Donc ça, c'est évidemment satisfait puisque W est antisymétrique. Et donc, il suffit de normaliser les E étoiles transformées à partir de ces deux premières valeurs pour avoir les deux premières colonnes d'une matrice symplectique. Et donc, on va avoir E1 étoile qui va être égal à E1 divisé par la racine carrée de W de E1 F1 au signe près, et F1 étoile va être égal à F1 divisé par la racine carrée de W de E1 F1 en valeur absolue. Et donc au signe près, on aura cette égalité égale à 1. Alors maintenant, par récurrence, supposons que on ait construit un E1 étoile, F1 étoile, un E2 étoile, F2 étoile, etc., un En étoile, Fn étoile, qui forme une matrice symplectique au sens où W de EI, EJ est égal à 0, W de FI, FJ est égal à 0, et W de EI, FJ est égal à delta IJ. Alors, donc, E1 est un vecteur de taille grand N, F1 est un vecteur de taille grand N, on les met en colonne pour avoir la première colonne de A, et on a ainsi E2, F2, En, Fn. Alors, si on prend un élément S quelconque, on peut définir un S tilde en le rendant orthogonal au sens du produit W, en retranchant la somme des W de EI et de S moins W de FI et de S EI. Et donc la somme de I allant de 1 jusqu'à petit n. Donc ayant un élément S quelconque, on peut lui retrancher ça de sorte que le W de EJ et de S tilde va être égal à W de EJ et de S moins la somme de I égale 1 à N de W de EI et de S, W de EJ et de FI, moins W de FI et de S, W de EI et de EJ. Alors ça, ça fait 0. Ça, ça fait delta IJ. Et donc, il reste ici W de EJ et de S. Et donc, ceci est égal à 0. Donc, ceci nous a permis de rendre n'importe quel élément S tilde d'enlever à S, le transformer en un S-tilde, de sorte que le W des EJ S-tilde est égal à 0 pour tous les E précédents, et de la même façon, vous avez compris, le W de FJ et de S-tilde est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ben, je vais rajouter deux éléments U de mu n plus 1 et de T n plus 1 et U de mu tilde de mu étoile n plus 1 T n plus 1 étoile. Je vais rajouter deux éléments que je vais rendre orthogonal à la partie précédente au sens symplectique. Donc je vais les transformer en des U tilde n plus 1. Et ensuite, je vais leur appliquer cette chose qui est ici pour les rendre compatibles avec le couple ici, et ce qui va me donner un nouvel élément, En plus 1 étoile, Fn plus 1 étoile. Donc la construction de façon greedy l'approximation symplectique se fait à peu près de la même façon que cette approximation qui est là, sauf que au lieu de faire une orthogonalisation de Gram-Schmidt, on fait une orthogonalisation au travers de ce produit bilinéaire symplectique avec le J. D'accord ? Donc ça, ça a été développé dans la thèse de Buschfink et ce qui a donné un certain nombre de papiers avec Bernard Hasdonck. Et où on n'a donc pas besoin du tout d'avoir l'orthonormalité classique, et au contraire que rajouter cette contrainte-là qui s'appelle une orthosymplectique, eh bien forcément, puisqu'on rajoute des conditions, va diminuer les propriétés d'approximation de la solution symplectique qui est là. Le fait d'avoir une matrice symplectique n'est pas antinomique avec garder l'orthogonalité au sens classique, mais ne sert à rien dans ce qui est de l'approximation. Et en particulier, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est d'avoir un Hamiltonien réduit qui permet d'avoir une équation sur l'évolution du Z sous cette forme-là qui va conserver la propriété symplectique. Alors, une fois qu'on a cette écriture symplectique, il faut utiliser un schéma de différentiel symplectique pour obtenir la bonne conservation et avoir la bonne conservation, non pas de l'Hamiltonien initial, mais de l'Hamiltonien réduit ici, ce qui permet d'avoir une bonne approximation en temps long de la solution. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, deux propriétés de conservation importantes, la positivité des solutions, d'une part, et d'autre part, garder le caractère symplectique de la solution, où le cadre, la technique est à peu près la même, sauf qu'il faut remplacer la propriété d'orthogonalité par une propriété de symplecticité de la matrice. Très bien, on va s'arrêter, il est 10h59, est-ce qu'il y a des questions ?
Le pseudo Gram-Schmidt, on sait qu'il marche à tous les coups, on peut tomber sur des trucs qui sont self-orthogonaux
ou... Alors, c'est dans le choix des deux solutions ici que tu t'assures. Voilà, c'est ça, ouais. Il faut que ces deux-là soient indépendants, de sorte que les W de les deux EN, FN soient différents de 0. Comment ? Ouais. Ben, le V, il est de taille grand N sur petit n, classiquement.
Oui, mais je veux dire, on travaille avec des petits n qui sont plus grands.
Non, petit n est plus petit. Le système réduit, petit n, ici, Z appartient à R2N.
Donc ça veut dire, parce que le petit n, au départ, c'était le nombre de pas de temps.
Non, le petit n, c'était pas un nombre de pas de temps.
Le grand n, c'était le nombre de
Grand N, c'est la taille, élément fini, par exemple, de ton système.
Je pense à un système hamiltonien avec une vidéo, donc c'est la taille.
C'est la taille de tes vecteurs.
C'est trois fois ton nombre de temps.
Ton système est nice. Le P et le Q, tout à l'heure, le P et le Q, c'est deux éléments dans R grand N.
Ça va.
D'accord ?
Ça, c'est X qui est ici, tu vois.
Ça, c'est le X qui est ici, ouais.
Voilà. Donc, j'ai compris que la taille des X, c'était la taille des zeta I, qui est là-bas.
La taille des X, c'est la même taille que les zeta I, oui.
Donc là, ici, on a donc des
zeta I. Non, c'est le... ceux-là sont de taille grand N, et ça, c'est des PQ, d'accord ? Donc, c'est taille 2N. P et Q sont de taille N. Pardon ? Il n'y a pas de pas de temps ? Non. Il n'y a pas de pas de temps pour le moment. Il y a des pas de temps ici. Enfin, des snapshots. D'accord ? Donc là, tu travailles avec un ensemble très grand de solutions exactes qui ont été calculées de façon approchée la plus précise possible, correspondant à des valeurs de paramètres, et tu as normalement toute la trajectoire en temps. Donc tu as beaucoup de solutions en temps. Et de celles-là, tu extrais un certain nombre de solutions qui sont intéressantes. Alors, cet ensemble-là, tu t'en fous un petit peu.
Okay.
D'accord ? Tu vas piquer dans cet ensemble-là, et cet ensemble-là, tu considères qu'il est assez représentatif. Ce qui est raisonnable pour les temps, ce qui est pas très raisonnable pour les mu. Les mu, c'est quelques valeurs pour lesquelles tu vas calculer toute la trajectoire. Tu as toute la trajectoire en temps, donc si tu as pris une approximation précise, tu as plein d'instants. D'accord ? Donc tu vas piquer là-dedans, pour avoir deux vecteurs, et ensuite des vecteurs comme ça, qui sont des vecteurs pour lesquels l'erreur par rapport à l'approximation dans cet espace-là, dans l'espace jusqu'à grand N, va être la plus mauvaise possible. D'accord ? Et ensuite, tu les orthonormalises au sens hamiltonien. D'accord ? Donc, le grand N... Le 2N qui est là, c'est parce que dans l'histoire de simplecticité, nos solutions sont des couples de même dimension. Donc c'est pour ça qu'il y a un 2N, d'accord ? Que d'habitude, c'est des fonctions qui sont de taille grand N. Grand N étant la taille qui supporte l'approximation des solutions en espace, mais qui est le nombre d'atomes multiplié par 3 si on a des particules. Et puis le petit n qui est là, c'est la taille de l'approximation réduite, puisqu'à la fin, on va calculer des composantes qui sont dans R2n simplement. D'accord ? Tu veux petit n beaucoup plus petit que grand N. D'accord ? Et c'est pour ça que tu commences par n égale 1, n égale 2, n égale 1, etc. Ok ? Pas d'autres questions ? Eh bien, on fait une petite pause.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.